Radio Okapi.
À la présentation du journal, Daniel Tambizoni.
Bonjour à toutes et à tous, à la une de ce journal sur Radio Okapi. Annoncé pour la semaine dernière, c'est finalement aujourd'hui 2 novembre que le président de la République ouvre les consultations nationales. L'ordre d'arrivée et de réception des personnalités et associations est bien défini dans les invitations distribuées. Les sources de la présidence renseignent que le comité technique mis en place pour préparer cette série de contacts est très avancé. Le bilan de l'attaque EDF du village Lissassa en territoire de Béni revu à la hausse. Il passe de 17 à 21 civils tués, conséquence de l'évasion de la prison de Kangwaï pour les élus du coin, tandis que la société civile s'inquiète de la légèreté dans la prise en considération des alertes sécuritaires. L'invité de ce journal matin est le chef des travaux à l'Université libre de Kinshasa, Augustin Mangemossi. Il nous donne sa lecture, son analyse du protocole de coopération militaire que la RDC et les États-Unis d'Amérique ont signé le 28 octobre dernier. L'entretien est à suivre avant la fin de cette édition à laquelle je vous souhaite la bienvenue. Les consultations nationales initiées par le président Félix-Antoine Tshisekedi débutent lundi 2 novembre 2020. Le cabinet du chef de l'État l'a annoncé vendredi 30 octobre à la télévision publique, la RTNC. Le porte-parole du président de la République, Kassongo Mouma, indique que l'ordre d'arrivée et de réception des personnalités des associations est indiqué dans les invitations qui ont été distribuées aux concernés. Et selon les sources de la présidence de la République, le comité technique mis en place pour préparer cette série de contacts très avancés. Outre les politiciens, Félix-Antoine Tshisekedi va rencontrer plusieurs autres sensibilités, dont l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo et la société civile. Les consultations interviennent dans un contexte caractérisé par un climat tendu entre les alliés au pouvoir, à savoir le FCC et le CACH. L'Assemblée provinciale du Maniema a jugé recevable la pétition initiée par la société civile Force Vive pour solliciter la destitution du gouverneur Augustin Moussafir Nkola. 20 députés provinciaux sur les 21 qui ont participé à la plénière de vendredi dernier ont donné leur approbation à ce document et l'ont versé à la commission permanente. Le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Maniema, le député provincial Thierry Badisungu, explique au micro de Florence Kizalunga.
Pour la question de la pétition déposée par la société civile, cette pétition a été déclarée recevable par la plénière de ce jour et elle a été versée dans l'une des commissions permanentes. C'est la commission infrastructure, aménagement du territoire, environnement et ressources naturelles. C'est cette dernière qui pourra examiner toutes les allégations, alors cas par cas, et voire même confronter les deux parties, c'est-à-dire la société civile et l'exécutif, pour enfin revenir présenter les conclusions à la plénière qui vous sera fixée d'ici 10 jours.
Attaque des rebelles ougandais de l'EDF au village Lissassa dans le groupement Bouliki en secteur de Rwenzori. Le bilan passe de 17 à 21 civils tués. Les acteurs de la société civile s'inquiètent de la légèreté avec laquelle les alertes sécuritaires sont prises en compte. Les élus de la ville et territoire de Béni, eux, parlent des conséquences de l'évasion de la prison centrale de Kangwaï. Ainsi, ils appellent les autorités provinciales et militaires à prendre en main leurs responsabilités. C'est ce que nous dit Marc Maroufimbo.
À en croire la société civile de Lissassa, le bilan de l'attaque de vendredi dernier est passé de 17 à 21 civils tués par les EDF dans la nuit du vendredi à samedi. Elle accuse les services de l'ordre de la légèreté dans la prise en compte des alertes sécuritaires. Pendant ce temps, certains élus parlent déjà de la conséquence de l'évasion massive des détenus de la prison centrale de Kangwaï à Beni le 20 octobre dernier. L'un d'eux, Saïd Balikwisha, élu du territoire de Beni, dans une correspondance adressée ce samedi aux autorités provinciales et militaires, a mentionné, je cite, l'assassinat des civils dans plusieurs villes du groupement Bouliki de la chevrille de Bachou, attaque d'hommes armés contre les péages routes de l'axe Boutembo-Boutouré et autres formes de sécurité dans le territoire de Beni sont les conséquences directes de l'évasion de la prison de Kangwaï. Il y a exigence d'ouverture des enquêtes et appréhender si possible les auteurs. Saïd Balikouche a dit craindre un regain de sécurité dans la partie sud du territoire de Beni après attaque contre la prison de Beni, cas du village Lissassa, Pabuka, Kassandi et Kandimba attaqués la nuit dernière par des EDF qui ont tué plusieurs civils, dont 11 corps retrouvés à mi-journée. Ainsi, pour lui, il est temps que l'armée voie comment éviter que cette zone s'embrasse dans les sécurités, pendant que c'est parmi les parties du territoire de Beni qui abritent plusieurs civils fuyant la guerre dans la partie nord et nord-est. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Que tous ceux qui sont encore dans la brousse optent pour le processus de paix. C'est l'appel du responsable de l'église de l'Arche de l'Alliance de Beni lors d'une série d'activités ecclésiastiques organisées samedi à Beni dans l'objectif de prier pour la paix en ville et territoire de Beni ainsi dans tout le reste du pays. La paix et le bien-être, c'est tout ce que la population congolaise veut. Ainsi, tous ceux qui sont encore dans la brousse sont appelés à adhérer au processus de paix. Écoutons le pasteur Christophe Zawadi au micro de Marc Marofimbo.
L'appel que nous pouvons lancer, c'est que tout le monde, qu'il soit rebelle, qu'il soit au gouvernement, qu'il soit dans quel coin ou dans quelle idéologie qu'il soit, il faut que tout le monde comprenne que les intérêts particuliers de chacun ne peuvent pas être atteints. Il faut que tout le monde comprenne qu'il y a l'intérêt général qu'il faut rechercher. Et nous tous, nous avons besoin du bien-être, nous avons besoin d'être ensemble, nous avons besoin de vivre dans l'honneur et dans la dignité. C'est pourquoi nous appelons tous ceux qui sont dans la brousse de chercher à exprimer leurs intentions de manière claire et sans beaucoup d'exigences, qu'ils soient en mesure d'avoir les cœurs compatissants. Surtout que ceux qui payent le prix de toute la méchanceté, de toutes les politiques, c'est la population qui n'a rien à voir avec tous les intérêts qui sont autour. Et donc nous appelons tout le monde à voir l'intérêt commun de tout le monde et à la paix, parce que la paix bénéficie à tout le monde.
Nous rentrons dans la province du Maniema. 48 heures après sa capture par les FARDC dans les forêts surplombant le secteur de Balanga, en territoire de Kayilou, le chef rebelle Kassembe Bernard alias Kifinyo est transféré vendredi ici à Kinshasa et sera jugé pour des crimes que sa milice a commis sous son commandement dans son propre territoire, le propriétaire de son territoire d'origine qui est Kayilou. Il est accusé pour des présumées tueries, viols des femmes, destruction méchante et autres atrocités commises sur la population et ses biens. Mais cette capture et le transfèrement voulu par le gouvernement provincial du Maniema n'est pas apprécié par l'ASBL. Florence Kiza Lunga nous dit pourquoi.
En croire le président de cette structure de défense des droits de l'homme, le fait de l'éloigner de son juge naturel ne va pas donner l'occasion aux victimes de se présenter au procès. Raphaël Opelele Lokenga.
Le gendarme condamne le transfèrement de M. Bernard à Kinshasa et pourtant il est présumé coupable de beaucoup de crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Et le fait de le transférer à Kinshasa va l'éloigner de son juge naturel. Ça contraste avec l'article 19 de la Constitution et ça ne va pas donner la possibilité aux victimes de se présenter au procès.
Même son des cloches du côté des victimes.
Grande et notre surprise de constater que Bernard a été transféré à Kinshasa pendant que nous sommes en train d'attendre qu'il soit présenté devant son juge naturel ici au Maniema où il a commis beaucoup d'exactions. On l'amène à Kinshasa pour faire plaisir à qui ou bien on veut l'utiliser comme un bouclier politique. Et c'est pourquoi nous venons ici dénoncer cette situation qui met toutes les familles victimes dans une situation de détresse qui vient encore remuer les couteaux dans les plaies.
Bien avant son départ, l'autorité provinciale a appelé les groupes armés actifs au Maniema à déposer les armes. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Le consortium des réseaux des femmes appelle les jeunes Congolais à quitter les groupes armés et à abandonner toute forme de violence et de banditisme urbain. L'appel est signé Desi Foura, présidente de l'ONG Femmes Solidaires pour la Paix et le Développement. C'était hier dimanche devant la presse ici dans la capitale. Cet appel coïncide avec la célébration de l'anniversaire de la résolution 1325 des Nations Unies dont le thème cette année est « Agir pour soutenir les artisans de la paix ». Une série de manifestations, notamment le sit-in devant le bureau des institutions et autres marches sont programmées pour réclamer la paix en RDC. Desi Foura au micro de Jean Désiré Kanyama.
Vous savez que nous sommes en train de commémorer les 20 ans de la résolution 1325 des Nations Unies qui reconnaît les implications des femmes dans la lutte contre l'insécurité et pour la consolidation de la paix. Nous sommes venus ici pour soutenir les actions de femmes qui défendent la paix, qui luttent contre l'insécurité en RDC, contre les Kulula, contre les kidnappings, qui est une action portée par la l'association Compassion contre la pauvreté et qui s'engage dans la lutte pour la paix, la lutte contre l'insécurité dans notre pays, conformément au thème de la résolution 1325 en commémoration des 20 ans de son existence. Nous sommes aussi dans un programme de voix et leadership des femmes. Nous allons continuer les actions dans le cadre de ces programmes pour soutenir les femmes qui défendent la paix, pour que la voix des femmes puisse se faire entendre pour lutter contre l'insécurité, contre les koulounas, les kidnappings.
Bonne nouvelle pour les habitants de la province du Bas-Uélé. L'eau de la régie des eaux va couler à nouveau des robinets et des bonnes fontaines de la ville de Bouta à 324 km au nord de Kisangani à partir de ce lundi 2 novembre. Le directeur de la régie des eaux, Kisangani en mission au chef-lieu du Bas-Uélé, l'a révélé à la radio Kapi. C'était samedi, au lendemain de sa rencontre avec le gouverneur de la province, Valentin Senga. Il est allé lui faire part de la fin des travaux techniques engagés depuis 2 ans. Jacques Mokonkole nous donne plus de détails.
Depuis 26 ans, la régie des eaux n'a plus fourni de l'eau courante aux habitants de la ville de Bouta. Ses robinets et ses bornes fontaines disséminées à travers différents quartiers étaient devenus secs. En cause, la destruction des installations et du réseau de distribution d'eau dans les années 1997 lors de la guerre de l'Afdel. Selon le directeur provincial de la régie des eaux Kisangani, Ebaka Issé, le pari est gagné et l'eau coule déjà des robinets.
Le projet qu'on a commencé il y a 2 ans déjà, le projet est fini, on met déjà les centres en exploitation. Il y a des essais que nous sommes en train de faire maintenant. Je crois que lundi, on aura déjà terminé et Bouta de l'eau après 26 ans. Voilà, c'est un pari que nous avions lancé, nous l'avions respecté. Je crois que le DG a tenu son pari.
Par rapport aux modalités d'approvisionnement en eau courante de la régie des eaux, le directeur a précisé que les prix sont fixés en fonction du coût d'exploitation. Toutefois, certaines charges ne sont pas prises en compte. Elles seront supportées par son entreprise, a souligné Ebaka Issé. Celui-ci indique par exemple qu'un bidon de 25 litres d'eau sera vendu à 100 francs congolais. Jacques Mkongole, Kisangani, Radio Kapi.
On vient de l'apprendre dans la province du Kwilu, la forte pluie qui s'est abattue dans la nuit du 29 au 30 octobre dernier sur la cité de Gungu, chef-lieu du territoire portant le même nom, a laissé beaucoup de dégâts matériels. Le député provincial Loadi Aldo, élu de cette circonscription, indique qu'une centaine de maisons et 5 écoles sont écroulées. Les familles victimes sont en débandade. Certaines passent la nuit à la Belle Étoile et d'autres chez les voisins. Les enseignements sont suspendus dans ces écoles écroulées. L'élu de Gungu en appelle à plus de responsabilité du gouvernement provincial pour la reprise des cours et pour sauver la vie dans cette communauté. Le député provincial Loadi Aldo au micro de Irène Boma.
À Gungu, il y a eu une forte pluie pendant la nuit de mardi, mercredi dernier et qui a endommagé une centaine de maisons. Au-delà de ces maisons, il y a aussi 5 écoles qui ont été complètement effacées, la carte de Gungu. 2 écoles secondaires, une école primaire et une école maternelle. C'est là qui se sont réfugiés dans des familles voisines, mais il y a de ceux-là qui sont vraiment sous la Belle Étoile. Je voulais demander au gouverneur, d'une manière personnelle, mais aussi au ministre en charge de l'Intérieur, de prendre toutes les dispositions pour que ces enfants, ces familles, pourquoi pas cette communauté-là, arrive à se sentir soutenue par l'exécutif. Bon, les élèves, c'est-à-dire qu'il faut que le plus rapidement possible, que le gouvernement s'impose, c'est-à-dire peut-être trouver une mesure exceptionnelle, par exemple, trouver dans un premier temps, pendant qu'on cherche comment reconstruire ces écoles, comment trouver des écoles amies sur place pour que ces enfants soient acceptés.
Actualité internationale.
Le 2 novembre 2013, 2 novembre 2020, c'est le triste anniversaire aujourd'hui de nos 2 confrères journalistes de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, enlevés puis tués à Kidal dans le nord du Mali, alors qu'ils étaient en reportage 7 ans après. 1 des commanditaires et 2 des ravisseurs présumés courent toujours. En 2019, RFI avait révélé que les forces spéciales françaises avaient tenté de poursuivre les ravisseurs, une information confirmée pour la toute première fois cette année par un officier français. Cet officier a confirmé au juge d'instruction en juin dernier la présence des forces spéciales sur place. Lui, il dirigeait le détachement qui a officiellement découvert les corps de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon.
L'invité.
Notre invité ce matin est Augustin Mangemossi, chef de travaux à l'Université libre de Kinshasa. Il est l'auteur du livre « La nouvelle géopolitique de l'Afrique médiane ». Il analyse pour nous le protocole d'accord pour la coopération militaire signé entre la RDC et les États-Unis d'Amérique le mercredi 28 octobre dernier ici à Kinshasa. Cet accord comprend entre autres la formation du génie militaire congolais. Augustin Mangemossi est interrogé par Alain Irung.
Augustin Mangemossi, bonjour.
Bonjour.
Vous le savez, un protocole d'accord pour la coopération militaire entre les États-Unis et la RDC a été signé mercredi 28 octobre à Kinshasa. Cet accord comprend entre autres la formation du génie militaire. Comment vous l'analysez?
Cet accord suit le partenariat privilégié qui a été signé entre la RDC et les États-Unis d'Amérique pour la paix et la prospérité. C'est-à-dire, depuis l'avènement de l'actuel chef de l'État, il a été signé un certain nombre d'accords entre les États-Unis d'Amérique et la RDC, touchant des domaines. Les domaines de la défense, les domaines de la sécurité, mais qui touchent principalement les aspects liés à la paix et à la prospérité. Alors, nous analysons l'accord de deux façons. D'abord, tenant compte des impératifs de l'imposition de la paix à l'est de la République démocratique du Congo, et ensuite, tenant compte aussi de la prospérité, non seulement de la RDC, mais aussi de la région dans son ensemble. Mais cet accord comporte un certain nombre de dont la formation du génie militaire, la professionnalisation des FARDC, la prise en charge des soldats et de leurs familles, mais aussi l'aide à la fois matérielle et financière.
On sent déjà qu'il y a un rapprochement entre les deux États sur le plan militaire, mais que pourrait concrètement gagner la RDC selon vous auprès des Américains et en contrepartie, qu'est-ce que les Américains gagnent?
Les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. Les Américains gagnent en termes de prospérité. Vous savez que la RDC regorge d'immenses ressources naturelles et vous savez que les continents africains, c'est le lendemain du monde, c'est-à-dire tous affluent en Afrique. Les Américains sont en guerre économique contre à la fois la Chine, mais aussi un certain nombre d'États en Europe, mais aussi en Asie. Les Américains sont là pour sécuriser d'abord leurs intérêts, ce qui est tout à fait normal pour un État souverain. Mais nous, en contrepartie, nous tirons les dividendes de ces partenariats pour d'abord consolider la démocratie, imposer la paix à l'est de la République et aussi construire la coprospérité nationale.
Sur le plan militaire, les États-Unis agissent à travers cette structure appelée AFRICOM. Comment fonctionne-t-elle?
AFRICOM, c'est un commandement des États-Unis pour l'Afrique. Avant, la région Afrique dépendait de l'Europe. Mais depuis 2006, il a été créé AFRICOM, United States Africa Command. C'est-à-dire, c'est un commandement unifié pour l'Afrique qui a été créé par le département d'État et le département de la défense des États-Unis d'Amérique pour coordonner les activités militaires et sécuritaires des États-Unis en Afrique. Parmi les missions essentielles, il y a la lutte contre le terrorisme, il y a la sécurisation des intérêts américains en Afrique et surtout, sortant de la géopolitique du pétrole ou encore de la géoéconomie, c'est-à-dire la guerre économique, de la compétition économique autour de la région Afrique. Et les Américains profitent du commandement unifié pour aider un certain nombre des États d'Afrique dans la formation des soldats au maintien de la paix, la fourniture d'une aide militaire, la fourniture d'une aide médicale, la surveillance aérienne avec des drones pour essayer un peu de diminuer le terrorisme et le banditisme en Afrique, mais aussi mettre à la disposition d'un certain nombre d'États la force d'intervention rapide. C'est-à-dire, l'AFRICOM n'est pas destinée à faire la guerre, mais l'AFRICOM est préparée à appuyer les États d'Afrique pour faire la guerre.
Pour terminer sur la question de lutte contre les groupes armés dans l'est de la RDC, pourrait-on par exemple voir un jour des militaires américains débarquer dans cette partie du pays? Sinon concrètement, quels mécanismes les États-Unis mettront selon vous en place dans la lutte contre les groupes armés?
Vous devez savoir que la RDC a montré par le passé que la RDC a une armée. Le problème, c'est la professionnalisation. Le problème, c'est la prise en charge des soldats. Le problème, c'est l'aide matérielle, l'aide financière pour pouvoir faire la guerre. Nous avons besoin d'un appui américain, surtout sur le plan de la reconnaissance. Les États-Unis d'Amérique peuvent mettre à la disposition des FARDC les drones de reconnaissance et de surveillance, les armes, un certain nombre de choses qui peuvent aider les FARDC à pouvoir faire la guerre.
Augustin Manguema aussi, je vous remercie.
Augustin Manguemossi, chef des travaux à l'Université libre de Kinshasa, l'invité de ce journal, répondait aux questions de Alain Rung. Et c'est la fin de cette édition. Merci de la retrouver sur www.radiocapi.net.